Afternoon, everybody. No!
We'd like the Black Legion to stop this farmer strike on behalf of American prosperity. And in return, we're offering substantial support for as long as our business interests and your moral crusade both continue to happily coincide.
God damn it, Chantal! What is wrong with you?
What do you think banks do with money? Put in other banks? No, they do what everyone with money does. They use it to rout and pillage and plunder because that is the American way.
So Alex Stromboli claims that he got a hand job from Sarah Pearson.
Hold on. I can't talk to you about that.
Murder board. Murder board. Murder. No chanting.
You're slut shaming me. Shame on you.
Girl. Can you come down off the cross? We need the wood.
Happen, Leonard! Come out and play!
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, cette émission qui vous parle série télévisée, le 15e épisode déjà de cette saison 6 avec l'ami Aurore. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Bienvenue sur les antennes. On va parler avec toi bien de sujets qui te concernent principalement, puisque tu as revu pour nous bien quelques séries dernièrement et tu vas nous en donner ton avis du moment.
Oui, alors je vais commencer par une série qui avait commencé à la rentrée de cette saison 6, c'est-à-dire fin septembre, début octobre, et qui n'est pas tout à fait une nouveauté, mais qui est un retour quand même après une très 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 longue pause. Il s'agit de Murphy Brown, qui était revenu cette année-ci avec sa saison 11, si je ne m'abuse. Alors Murphy Brown, c'est une sitcom qui avait été diffusée dans les années 80, me semble-t-il, qui met en scène une journaliste de plateau avec son équipe, qui généralement c'est en partie pour autour de ce gimmick-là qu'elle s'est fait connaître, recherche toujours un assistant et tombe toujours sur les assistants les plus loufoques. Alors je te dis ça, je dois t'avouer, sans trop en savoir plus, vu que moi-même, la série de l'époque, je ne l'ai pas vue. Les seules images que j'ai pu en avoir, c'était à travers la série Seinfeld, où, me semble-t-il, Kramer devenait l'assistant pendant un ou deux épisodes. Voilà, ici, on le trailer de ce retour, donc, nous expliquait en fait que, vu le contexte actuel, le contexte politique et médiatique de l'Amérique après l'élection de Trump, eh bien, le retour de vieux briscards qui finalement reviennent avec leur regard d'il y a 20 ans, ça ferait peut-être pas tort pour un petit peu remettre les choses en place, un certain nombre de choses en place par rapport à ce qui a fini par se normaliser dans l'Amérique contemporaine. Et c'est vraiment sur cette ligne-là que la série a proposé cette nouvelle saison. Donc, évidemment, le casting a clairement pris en nage, mais ce qui en soi n'a rien de déplaisant ni de choquant, même si, évidemment, comme il s'agit d'une reprise d'une sitcom quand même assez ancienne, mais on n'a pas affaire à un format extrêmement révolutionnaire. On est vraiment au niveau du format lui-même dans une sitcom très très traditionnelle. Par contre, eh bien justement, un petit peu comme il le promettait, l'idée c'est d'aller titiller tous les travers de la politique de Trump, aller parler, mettre son petit grain de sel aussi dans les grandes questions de société qui font parler d'elle pour le moment. Il y a par exemple un épisode sur MeToo, hein, dans lequel on a Murphy Brown qui va régler ses comptes avec un ancien professeur, si je ne me trompe pas. On a aussi un commentaire sur les médias, vu que Murphy Brown a un fils qui est un journaliste lui aussi, mais qui a été engagé, je ne révèle rien ici, hein, puisque c'est ce qui est dit dès le début du tout premier épisode, par le Wolf Network. On se doute évidemment que c'est Fox News qui est ici représenté sous les traits du Wolf Network et qui va devoir se plier ou pas d'ailleurs aux exigences d'un média qui justement fait parfois ce qu'il veut bien de la vérité journalistique, quoi. Donc ça égratigne un petit peu de tous les côtés sans non plus bouleverser énormément de choses. Il faut avouer que c'est assez convenu finalement de taper sur Trump dans les séries contemporaines. J'ai pas l'impression qu'on ait quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. Néanmoins, j'ai trouvé ça, de manière assez contradictoire, assez frais, parce que justement, c'est le retour d'un regard qu'on a peut-être perdu, une innocence, une fraîcheur de ton de parole qui s'était perdu en chemin, et ça, je dois dire que ça réussit assez bien. Maintenant, on est aussi dans l'entre-soi un petit peu privilégié d'une Amérique quand même très pleine de bons sentiments, mais en même temps qui n'est pas véritablement touchée ni par la crise économique ni quoi que ce soit dans ce genre-là, quoi, hein. Donc il y a aussi sans doute pas mal de critiques qu'on pourrait en faire. Mais donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui peut-être auraient vu la série à l'époque, ou bien ceux qui veulent voir le commentaire qui peut être fait à travers finalement des séries télévisées, parce que ça aussi c'est une spécificité qu'on aime, hein, dans ce genre médiatique, c'est le fait qu'on réagisse de manière assez rapide à l'actualité du moment. Mais je crois que c'est pas une mauvaise chose de regarder cette saison, et en soi c'est pas extrêmement long non plus, puisque c'est une comédie, c'est 13 épisodes d'une vingtaine de minutes, voilà,
ça t'a plu?
Oui, ça m'a plutôt plu. J'ai regardé jusqu'au bout, et s'il y a une saison 12, il n'est pas du tout exclu que je la regarde aussi. C'est, me semble-t-il, malgré tout intéressant. C'est un bon baromètre de ce qui peut se faire et ne pas se faire éventuellement à la télévision pour le moment. Donc voilà.
Bien, voilà pour le premier choix de la semaine.
Alors ça, c'était une nouveauté mais qui est déjà un petit peu vieille. Cette fois-ci, je vais passer à une nouveauté beaucoup plus récente et donc pour laquelle j'ai un avis qui reste encore pour le moment un peu suspendu, quoi, hein. Le tout premier épisode m'avait plutôt bien plu. Le deuxième était dans la lignée, même si il y avait rien de nouveau, donc je réserve encore un petit peu mon jugement. Néanmoins, je vais déjà en parler pour pour lui donner un peu de visibilité. On ne sait jamais, ça peut peut-être l'aider. Par contre, son nom, il vous dit peut-être quelque chose si vous aimez les séries, puisqu'il s'agit d'un... Est-ce que c'est un remake ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une série qui existait déjà dans les années 90, me semble-t-il, qui s'appelle Roswell. Simplement, ici, c'est Roswell, New Mexico, qu'ils appellent ça. Voilà. Et qui est proposé par la CW. Alors, je dois dire que le Roswell original, j'ai vu peut-être les deux premiers épisodes et puis c'est toujours en attente, quoi. Donc ça m'avait pas énormément passionné, attrapé dès le début. Je m'étais toujours dit que j'allais reprendre pour un petit peu savoir plus sur cette série, mais finalement c'est toujours dans les cartons, donc je saurais pas te faire véritablement une comparaison avec la série d'origine. Par contre, si je devais faire des comparaisons, c'est plutôt du côté de The Originals que je regarderais, en partie parce qu'il y a certains acteurs qui se trouvaient dans les deux séries, en partie aussi parce qu'on retrouve dans le générique une certaine Julie Plec, qui, me semble-t-il, était déjà à la manette des Originals, qui se sont terminés donc fin de la saison passée. Hein, on a véritablement l'ambiance des séries de la CW de cette mouvance-là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le propos, ici, on ne parle pas de vampires, on parle d'extraterrestres, en gros, mais ça ne change pas énormément la donne. Donc, on a un élément un petit peu fantastique. Ici, admettons que c'est peut-être un petit peu plus de science-fiction que de fantastique, mais avec des pouvoirs aussi pour chacun des personnages aliens, donc. Hein, et puis tout un sous-texte assez appuyé au minimum pour le premier épisode, mais que j'ai trouvé vraiment... être le cœur le plus intéressant de ce que la série avait peut-être à nous dire sur la politique d'immigration aux États-Unis, vu que on a au minimum quelques personnages qui sont d'origine latino et qu'on a un discours quand même assez clairement pro-immigration, très, très ouverte sur l'immigration d'Amérique latine, justement, et des grands méchants, on n'en est pas encore là, hein, je t'ai dit, j'en ai vu que deux épisodes, mais en tout cas, on dessine déjà une sorte d'intolérance, peut-être pas des rednecks, mais tu vois des gens un petit peu caricaturaux comme ça de l'Amérique profonde qui se trinquent-ballent en gros 4x4 et qui tirent sur tout ce qui bouge et surtout si c'est un petit peu bronzé, quoi, hein. Donc on a un petit peu cette ambiance-là. C'est ça qui m'a bien plu. Maintenant...
T'as fait peur, hein, ce que tu dis.
Non, c'est le côté,
c'est l'ambiance.
C'est le propos politique qui peut se cacher derrière, qui m'a bien plu. Mais par contre, comme je l'ai dit, c'est assez caricatural. Comme on est dans la même mouvance, plus ou moins que les séries du genre The Originals, ben on a aussi beaucoup de romances, des acteurs tous extrêmement beaux et qui vont, espérons-le, je croise les doigts, ne pas hésiter à se promener le plus souvent possible torse nu. En tout cas, c'est bien parti.
D'accord.
Oui, ben oui, écoute, tu regardes pas une série comme ça si c'est pas pour voir les acteurs torse nu au minimum. la moitié du temps. Donc je ne crois pas que le propos de la série était le même que la série originale, mais pour ce qui est de l'histoire, ici, nous avons une jeune scientifique qui revient dans sa ville natale qu'elle avait quittée une dizaine d'années plus tôt parce que son père y vit toujours. 10 ans plus tôt, sa sœur a été impliquée et est morte dans un accident tragique qui a également coûté la vie à 2 autres filles du patelin. Un patelin évidemment porteur de plein de légendes et d'histoires, hein, puisqu'on est à Roswell, on a tout le mystère autour de est-ce qu'il y aurait vraiment un site où une soucoupe volante se serait crachée ou pas. On a une présence militaire, etc. Donc on a toute cette ambiance-là, mais évidemment ici la présence militaire, bah, ça se révèle être beaucoup plus des gens qui surveillent les frontières et qui vont ramener tous les immigrés à la frontière qu'autre chose. Elle fait partie de la communauté tout en étant d'origine latino et donc la personne à qui on va reprocher la mort des deux filles de la région qui ont été tuées soi-disant par sa sœur dans un accident de voiture. Et donc il va se passer un événement qui va lui faire prendre conscience qu'un Nex coup de cœur d'adolescence serait peut-être un petit peu plus que humain et pourrait avoir non seulement des pouvoirs un petit peu magiques, mais aussi beaucoup de secrets. Donc voilà.
Mystère.
Donc c'est Roswell, New Mexico. Bon, ça casse pas des briques, hein, on va pas se le cacher. Mais j'attends de voir. J'attends de voir principalement pour savoir si ils explorent le propos davantage politique ou bien si c'était juste un petit sous-texte qu'ils mettaient dans le pilote comme ça et puis qu'ils allaient vite laisser tomber pour simplement se consacrer sur les romances adolescentes et de jeunes adultes torse nu, quoi.
Ça pourrait te plaire quand même.
Ah, qui sait.
Bien. Voilà pour la deuxième série revue par toi.
Oui, je termine avec une troisième et dernière petite série. À nouveau, il s'agit d'une comédie comme la première. Cette fois-ci, c'était la saison 2. C'est plus une nouveauté, donc. Je viens de voir le tout dernier épisode. C'était la saison 2 de The Guest Book. Donc la série de Greg Garcia, créateur de My Name is Earl et puis Raising Hope, qui nous présentait dans sa saison 1 un chalet dans la montagne dans laquelle qui accueillait semaine après semaine différents protagonistes qui nous racontaient chacun leur histoire. Ici, on a exactement le même principe. On a certains personnages qui restent. Simplement, ils ont déménagé, ils sont partis à la mer cette fois-ci. Et donc, nous avons un petit, comment on appelle ça, je ne sais pas, un pied-à-terre juste au bord de la plage qui est loué à différentes familles, une famille différente par épisode. Donc, le principe donc reste le même. Il y a des choses que j'ai appréciées dans cette série. Une des choses que j'ai le plus apprécié, je l'avoue, c'est d'avoir retrouvé l'acteur qui jouait Kevin, le dessineur je sais pas comment le dire autrement, de beat sur voiture de prof dans le fameux American Vandal, dans un rôle totalement différent et ça m'a beaucoup plu de voir que ça avait donné envie à d'autres créateurs de séries de l'engager également. J'espère qu'on pourra encore le revoir assez souvent dans d'autres rôles. Voilà. À part ça, par rapport à My Name is Earl, par rapport même à Raising Hope, pour le moment, la série a son charme. Elle réussit à faire vivre tout un petit monde autour du lieu qui est loué différent pour chacune des saisons. Mais en même temps, ça manque encore du petit plus qui faisait tant que ça le charme des séries précédentes. Donc moi, je continue de prendre plaisir à regarder la série, même si, bah, évidemment, comme ce sont des personnages différents à chaque épisode, tous les épisodes ne sont pas équivalents. Il y en a clairement que j'ai aimé beaucoup plus que d'autres. Disons que c'est un bon divertissement sans plus, quoi.
Voilà. Mitigé sur ce coup-là.
Bon, oui, mais s'il y a une saison 3, voilà.
Oui, c'est ça. Je continuerai, tu es quand même cliente. Voilà,
malgré tout. Donc, c'est The Guest Book, deux saisons pour le moment, et qui sait, peut-être une troisième. Hein.
Bien. Voilà pour la revue des séries. En ce début d'émission, on va faire une petite pause. Oui. Pause musicale.
Ça s'appelle Back in Baby's Arms de Patsy Cline et c'est entendu dans Grace and Frankie.
Suite de Série Folie, on aborde là tout de suite le sujet du jour avec Aurore.
Oui, on va parler aujourd'hui de l'âge et même du grand âge, donc l'âge des personnes âgées, donc comme problématique, mais pas que, leur représentation dans les séries. Bon, on va pas se le cacher, les personnes âgées font partie de ces catégories qui sont quand même pas extrêmement représentées à la télévision, et quand elles le sont, c'est très souvent dans des rôles assez similaires et stéréotypés, quoi. Donc on va un petit peu passer tout ça en revue et voir ce que finalement les séries nous disent de la vieillesse et de l'âge. Mmh. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, la présence majoritaire des personnes âgées dans les séries télévisées, ben, ça va être évidemment beaucoup dans les séries familiales, dans lesquelles on va avoir la représentation d'un grand-père, d'une grand-mère, ou éventuellement des deux. Hein. Que ce soit dans les comédies, dans de nombreux sitcoms, on va avoir un ou plusieurs grands-parents qui sont présents, ou bien alors dans les dramas familiaux, on va aussi en avoir un certain nombre. À quoi est-ce que on peut penser, par exemple? Eh bien, du côté comédie, on va avoir notamment des grands-mères plutôt espiègles qui sont présentes dans la maison familiale ou en tout cas pas loin de la maison familiale et qui sont relativement encore jeunes dans leur tête au minimum et qui entretiennent une relation plutôt de complicité avec, avec les enfants de la famille. On a ça notamment dans Young Sheldon. On peut avoir ça aussi dans Fresh Off the Boat où on a la grand-mère chinoise qui vit à domicile. On peut évidemment penser également aux grands-parents de Hope dans Raising Hope, sauf que dans ce cas-là, finalement, les grands-parents sont encore assez jeunes, donc je suis pas sûre qu'ils rentrent tout à fait dans la catégorie des personnes âgées. De même, dans Modern Family, finalement, on a une des trois familles qui est la famille du grand-père, hein, du patriarche de l'ensemble de la famille, qui a refait sa vie avec une femme beaucoup plus jeune et qui donc lui aussi se retrouve avec des enfants du même âge, voire parfois beaucoup plus jeunes que ses propres enfants, quoi, hein. Donc on a aussi la représentation dans ce cas-là de finalement de grands-parents plutôt jeunes, plutôt dans le coup, entre guillemets. Contrairement, par exemple, à The Middle, où les grands-parents sont vraiment là, plutôt très... assez éloignés de la vie de la famille Heck dans son ensemble et ont tous leur petite particularité, mais c'est un petit peu la caractéristique de la série dans son ensemble, quoi, hein. Ils ont tous des particularités comme le grand-père paternel, par exemple, qui accumule chez lui des tonnes d'appareils ménagers en tout genre, sans qu'on sache trop ce qu'il compte en faire. Donc, on a la représentation de ces grands-parents-là. On a aussi eu, je sais pas si cette année-ci on en a encore, mais en tout cas, assez régulièrement, on a des comédies dans lesquelles le propos, c'est des enfants d'une trentaine d'années qui retournent vivre chez leurs parents ou dans leur... environ les plus directs. Je pensais par exemple à la série 2000 heures pour laquelle c'était le cas, mais c'est clairement pas la seule. Évidemment, ça surfait un petit peu sur toute la question de la crise avec les gens qui perdent leur maison et la nécessité pour certains de retourner vivre chez leurs parents parce qu'ils ont perdu leur maison, parce qu'éventuellement ils ont perdu leur travail aussi. Mais bon, dans ces comédies-là, si on peut imaginer que c'était une inspiration au départ, c'est quand même rarement le propos qui est retenu à la fin, quoi, hein. On va plus s'intéresser justement au côté très très bizarre des manies de ces personnes âgées, des des vieux parents des personnages principaux qui vont devoir apprendre à négocier plus ou moins avec eux pour continuer à pouvoir cohabiter, tout en se rendant compte aussi que finalement ses parents prennent peu à peu de l'âge et qu'il va falloir commencer à s'en préoccuper, éventuellement même s'en occuper, quoi. Donc voilà, ça c'était plutôt du côté comédie. À noter aussi que du côté comédie animée, là on va pouvoir penser plutôt à South Park et à aux Simpsons, dans lesquels les deux nous représentent un portrait beaucoup plus grinçant, puisque on a le grand-père Simpson d'un côté qui est très très souvent quand même oublié au haut, mais c'est une vraie corvée pour l'ensemble de la famille d'aller lui rendre visite. C'est quand même très souvent ce qui nous est représenté. Et puis on a du côté de South Park par exemple le grand-père de Stan qui lui demande de le tuer pendant tout un épisode. On a aussi très souvent dans cette série là qui évidemment n'hésite pas à nous mettre le nez sur, sur ce qu'on n'aime pas trop voir chez nous, généralement, le fait que voir des vieux avec tout leur côté, un petit peu le physique qui semble se défaire devant nos yeux, y a tout un jeu sur le côté un petit peu dégoûtant de cette chair qui tombe, etc., qui est quand même assez bien représenté dans South Park, qui n'hésite pas à aller assez loin sur cette question-là, quoi. Donc là, c'est assez intéressant de voir que finalement, dans les animés, on a un propos quand même très grinçant sur la vieillesse, tandis que du côté des sitcoms, là, on va nous présenter plutôt un truc très très positif. C'est assez rare de nous présenter des vieux qui sont abandonnés ou considérés véritablement comme étant un poids dont il faudrait pouvoir se débarrasser, quoi. Alors ça, c'était donc plutôt côté comédie. J'ai dit aussi qu'on avait aussi pas mal de personnages dans ce genre-là, dans les dramas familiaux. Et là aussi, on va avoir toutes sortes de représentations, puisque dans le côté vraiment plus dramatique, on va avoir parfois des vieux absolument imbuvables, des grands patriarches comme ça qui détiennent toute la famille et qui manipulent un petit peu tout le monde, qui refusent de mourir, les salauds, et tout le monde les déteste. Je pense à la série Trust de la saison passée par exemple, ou même de Succession qui avait été diffusée cet été. On va aussi avoir une représentation finalement beaucoup plus bon enfant de la famille dans des séries comme Brothers and Sisters ou bien Parenthood. Et puis on va avoir à nouveau le côté un petit peu plus, un peu décalé de la grand-mère un peu complice, etc., dans Downton Abbey par exemple, qui nous présente une arrière-grand-mère ou grand-mère, je ne sais plus, en tout cas la matriarche de la famille qui est clairement pas piquée des vers. Donc voilà, alors évidemment, une des grand-mères qu'aucun série-film ne peut oublier, c'est la grand-mère de Jane dans Dawson. Hein. On sait combien elle est importante et combien elle a été modifiée, combien elle s'est modifiée au cours de la série, vu qu'au tout début, elle est vraiment représentée sous un aspect assez acariâtre, très très puritaine, comme ça, très vieille chrétienté Et petit à petit, la complicité qu'elle va développer avec, avec sa petite fille vont véritablement transformer ce personnage plutôt négatif au départ. Faut quand même se rendre compte que dans les premiers épisodes, dans la première saison au minimum, elle est même représentée carrément comme raciste. Hein, donc, et puis ça change du tout au tout. Et elle devient un des personnages les plus positifs de la série, qui va suivre les adolescents quasiment jusqu'à la fin, quoi. Donc voilà du côté de la représentation traditionnelle des grands-parents, mais évidemment c'est pas les seuls endroits où on va quand même retrouver des personnes âgées. Bon, à noter que toutes ces personnes-là que j'ai notées très 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 souvent, la plupart du temps, ben, elles ne travaillent plus. Elles sont soit à domicile, soit dans un home ou éventuellement dans leur propre maison ou appartement. Mais enfin, elles ne sont plus actives, comme on dit. Par contre, ben, on a un certain nombre de séries qui vont faire un effort justement pour essayer de nous représenter des personnes âgées intégrées encore à la vie active, qui vont essayer de voir, enfin, nous représenter quelle peut être la place de ces personnages-là dans différents métiers éventuellement. Ou même nous montrer le plus que ça peut apporter. Alors évidemment, je ne peux pas m'empêcher de citer l'épisode 2 de cette toute nouvelle saison de Brooklyn Nine-Nine. Il me semble que c'est la saison 5, là, maintenant, qui est en train d'être diffusée, qui nous présente le passé de Hitchcock et Scully, qui était véritablement... extrêmement bien réussi et qui justement jouait un petit peu sur ce contraste entre la présence finalement sans cesse raillée parce que très très inutile voire problématique de ces deux agents de police qui sont véritablement les stéréotype du fonctionnaire qui est installé et qui ne bouge pas de sa chaise de toute la journée, quoi. Et puis on retourne dans le passé pour voir que ces deux personnages là finalement étaient les mêmes que nos jeunes protagonistes d'aujourd'hui, quoi. Donc c'était un épisode particulièrement réussi, mais tout ça pour dire que finalement dans cette série là parmi le commissariat, on a des personnages relativement jeunes, mais on a aussi quelques personnages qui sont un petit peu plus âgés. Et souvent, dans les comédies qui nous représentent un lieu de travail, comme ça, on va avoir quelques personnages comme ça qui représentent quand même d'autres tranches d'âge que la tranche d'âge qui est la plus représentée dans ce genre de récit, quoi, hein. Donc voilà, évidemment on peut penser à Superstore qui va même un petit peu porter son attention justement sur la question des personnes âgées qui font un travail très difficile. Dans Superstore, il s'agit de travailler comme caissier ou comme réassortisseur dans un grand magasin, et donc on a un personnage comme ça qui est tellement âgé que finalement elle n'arrive plus trop à faire à faire grand chose à l'intérieur du magasin, mais en même temps, si on la vire, elle devient quoi. Il y a quand même un vrai propos aussi autour du droit à la retraite et du moment où on part à la retraite dans cette série là. J'avais aussi j'avais parlé de Murphy Brown, le fait d'avoir le retour de ces personnages longtemps après, ça change aussi notre regard, parce que finalement, dans les années 80, ils avaient un petit peu l'âge requis pour faire de la télévision, presque. Hein. Petit à petit, on se retrouve 20 ans plus tard avec des personnages qui ont vieilli et qui continuent à dire bah, finalement, on a encore des choses à dire et peut-être même qu'on a un propos à apporter un petit peu différent que celui que vous entendez habituellement. Donc, ça peut aussi être intéressant de voir ces séries-là pour ça. C'est d'ailleurs la même chose que je pouvais apprécier dans une série comme Major Crimes, qui est une série finalement assez traditionnelle et un peu pépère, hein, mais en même temps, par rapport aux séries policières habituelles, elle nous représentait un casting qui dénotait quand même très très nettement de ce à quoi on a été habitué. Si on regarde par exemple la série FBI actuellement diffusée, qui est un petit peu la série policière la plus récente que j'ai pu voir, ben, au niveau du casting, il n'y a clairement pas photo. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule personne âgée de plus de 50-55 ans. Quoi. Je trouve que c'est quand même important d'avoir aussi des séries qui, même si elles paraissent au premier abord assez, ne rien révolutionner du tout, rien que par la présence d'un casting un petit peu différent, mais ça peut déjà changer un petit peu les choses. J'ai bien aimé aussi dans la série Hippocrate dont j'avais parlé, il me semble il y a 2 semaines, le fait que, eh bien, il s'agit d'une série médicale dans laquelle on a toute une série de médecins qui sont en quarantaine, donc qui ne peuvent pas exercer au sein de l'hôpital. Et ils font appel à d'anciens médecins qui viennent un petit peu à la retraite, justement, qui viennent un peu aider les internes à poursuivre leur mission de soignants pendant l'absence de leur maître habituel, quoi. Et on a vraiment dans un ou deux épisodes la présence de ces plus anciens médecins qui sont assez bien traités, puisque on va avoir à la fois plutôt l'image du médecin qui est resté assez attaché à ses vieilles méthodes, ses vieux principes, qui est encore un peu engoncé dans ses habitudes et qui vit très mal tous les changements qui se sont opérés dans les mentalités comme dans les pratiques au sein de l'hôpital. Et puis un autre finalement qui, bah, avec le côté beaucoup plus... philosophe sur la vie, le regard qu'il peut apporter un petit peu plus cool que des personnes peut-être plus jeunes, a une vraie présence à l'écran. Donc là aussi, c'était plutôt appréciable d'avoir ce genre de représentation-là. Je voulais peut-être citer une dernière série qui va un petit peu traiter de l'âge aussi, même si là aussi en fait elle triche, puisque je voulais parler de Lethal Weapon. Tu le sais si tu as vu les films, le principe c'est que normalement un des deux personnages est à quelques jours de la retraite. C'est d'ailleurs une de ses répliques favorites.
Hein. Oui.
Sauf que ici, mais manifestement, le jour de la retraite, il a été beaucoup reculé. Hein. Je vois pas pourquoi ce serait différent chez eux que chez nous. Voilà, on a ce personnage qui à la fois est censé être l'ancien flic, plein de sagesse, etc. Et c'est vrai qu'il est joué par un acteur qui a quand même déjà un certain âge, hein, et pourtant, ben, il fait véritablement pas son âge. Hein, ils ont pas été chercher n'importe qui non plus. En plus, ben, il a des enfants encore relativement jeunes, dont un tout nouveau, un bébé qui était un accident peut-être, mais il n'empêche que ça lui donne quand même une image de jeune papa qui change un petit peu de l'image à laquelle on a pu être habitué davantage dans les films. Et puis, on a tout le côté cascade, etc. Il a besoin d'adrénaline, ce monsieur. Donc, voilà, on a aussi tout ça qui fait que, clairement, on triche un petit peu avec la représentation qu'on peut nous faire de l'âge des personnes, et notamment, ben pourquoi pas, des agents de police, puisque même eux vieillissent. On va retrouver à peu près la même chose, alors pas exactement, mais dans une série de cette année-ci qui s'appelle The Rookie, dans laquelle on a... Alors, apparemment, c'est basé sur une histoire vraie, hein, donc c'est important. On a une personne de 50 ans aussi, à peu près, dans la cinquantaine, je dirais, qui décide de s'engager dans la police, tout à coup, de changer totalement de carrière. Et évidemment, bah, tout le monde lui promet... Un échec cuisant, parce qu'il est évidemment trop vieux pour s'engager, sauf que lui, il sait très bien qu'il en est capable, etc. Et là aussi, on a un petit peu l'idée que quand on veut, on peut, et l'âge, il y a moyen de le déjouer, finalement, c'est pas véritablement un problème, quoi. Hein. Donc, on va retrouver ça dans cette série-là aussi. Bon, alors ici j'ai parlé des séries dans lesquelles les personnes âgées étaient les plus représentées. Il me reste trois catégories dans lesquelles là elles sont représentées un petit peu différemment, mais évidemment ces catégories sont un peu moins étoffées. On a les séries très utiles dans lesquelles on a un casting très important, voire exclusivement de personnes âgées. Évidemment, on pensera aux Golden Girls, les fameuses craquantes qui datent quand même d'il y a un petit temps, à Grace and Frankie ou à The Kominsky Method, à Hot in Cleveland. J'avais pensé aussi, pourquoi pas, à la série Feud, où cette saison-ci, on a eu une nouvelle comédie qui s'appelait The New Kids, bon, qui était pas terrible, mais au minimum qui avait l'avantage de nous présenter un casting de personnes dans une maison de retraite. Ça, c'était les séries qui nous représentent, qui s'appuient véritablement sur un casting de personnes plus âgées. On a aussi les séries qui vont traiter de l'âge comme une problématique. Je pensais à la série Second Chance, dans laquelle on a une personne âgée qui grâce à un procédé scientifique extraordinaire, va pouvoir vivre une seconde jeunesse. Il y avait la série Forever, avec quelqu'un qui reste jeune éternellement, qui ne meurt jamais. En tout cas, chaque fois qu'il meurt, il se retrouve à nouveau en vie quelques temps plus tard dans un fleuve, me semble-t-il. On a certaines saisons de American Horror Story qui insistent beaucoup sur la difficulté de vieillir, notamment pour les femmes. Je pense notamment à la saison 3, où c'est quand même très, très appuyé. Si j'ai peut-être un petit peu compris Westworld et le propos de Westworld, il me semble qu'il y a un petit peu l'enjeu de déjouer aussi l'âge qui rentre en compte dans les problématiques de Westworld. Et puis, il y a une nouvelle série dont j'ai vu qu'un seul épisode jusqu'à présent, qui s'appelle Bloom, et qui nous parle là d'une plante extraordinaire qui ferait rajeunir les jeunes gens pour leur permettre de revivre leur jeunesse d'antan. Mais j'en dirai plus plus tard si j'en ai envie, donc si je continue à la regarder. Enfin, troisième et dernière catégorie, la série qui nous propose l'âge comme un enjeu narratif. On peut penser à Castle Rock et le fameux épisode sur la mère qui oublie tout, qui a la maladie d'Alzheimer. On peut penser à la saison 3 de True Detective, dans laquelle là aussi l'âge et la question de la mémoire jouent un rôle central. On peut penser à Mr. Mercedes, où là aussi, l'âge du personnage de l'enquêteur a son importance. J'avais pensé aussi à Fringe, puisque ben, l'âge du scientifique de Walter est très important, puisque c'est lui et le fait que ben, il n'est pas toujours toute sa tête qui justifie le fait qu'on aille chercher son fils pour le soutenir, mais aussi le fait qu'il ait énormément de secrets dans son passé qu'il va falloir aller rechercher. Il y avait aussi la série Graves, qui nous parle d'un ancien président qui regrette finalement un certain nombre des politiques qu'il avait mises en place et qui essaie de revenir en arrière, ou bien la regrettée Here and Now, dans laquelle là aussi on a un vieux philosophe qui commence à regarder sa vie pour se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas devenue exactement ce qu'il avait envie qu'elle devienne. Donc tout ça, ça fait pas mal d'enjeux et pas mal de sujets à traiter. Et puis il y avait aussi Grandfathered, la fameuse série dans laquelle on avait un vieux beau qui découvrait qu'il était grand-père alors qu'il a toujours essayé de croire qu'il resterait jeune éternellement et qui était plutôt touchante, il faut bien l'avouer. Bon, on fait une pause, j'ai bien compris par tes gestes que tu n'en pouvais
oui, mais
plus.
Je ne sais pas comment on va encore caser quoi que ce soit dans cette émission. Mais bon, ok.
D'accord, alors on va s'écouter Sorrow de David Bowie, entendu dans Trust.
Spend my money, get out there playing your high class games of sorrow. Sorrow, you never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow, sorrow.
Nous voilà déjà de retour pour clôturer cette émission 15 de la saison 6.
Oui, on va essayer de ne pas traîner puisqu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Ben, la première chose, c'est que même si ici j'ai cité quand même un certain nombre de séries dans lesquelles il y avait des personnes âgées, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même une sous-présence par rapport à la quantité, à la proportion qu'ils représentent véritablement dans la population. Ils sont sous-représentés. On peut notamment penser à un certain nombre de séries dans lesquelles il serait finalement assez normal d'imaginer qu'on ait des personnes âgées, des séries qui nous parlent principalement des questions de la mort, notamment, ou du deuil, ou ce genre de questions-là. Et finalement, on représente assez peu de personnes âgées dans ces séries-là. Des séries comme Six Feet Under, qui nous présentent un mort par épisode, ce sont souvent plus des morts spectaculaires que des personnes âgées. La série Go On, qui nous parlait d'un groupe qui devait traiter le deuil, ben finalement je crois qu'il n'y avait aucune personne âgée là-dedans. Je pense à aussi Dead Like Me, The Good Place ou Forever, dans lesquels on a des personnes mortes mais qui sont quasiment toutes jeunes, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une sous-représentation de personnes âgées. Ce qui me fait dire que finalement les séries dans lesquelles on a un casting quasiment uniquement de personnes âgées, ces séries spécialisées entre guillemets, est extrêmement importante parce que justement ils sont aussi peu représentés ailleurs, et la présence aussi de corps, tout simplement de corps d'acteurs qui ont déjà un certain âge et dont on voit l'usure du temps sur leur peau, est extrêmement important aussi. Le problème avec cette question-là de l'âge, c'est qu'il y a deux extrêmes qui vont finir par invisibiliser les personnes âgées. On a d'un côté la possibilité de nier totalement la spécificité liée à l'âge, hein, comme par exemple dans Lethal Weapon, où on nous présente une personne qui est censée quand même être à la fin de sa carrière, mais qui continue à faire des acrobaties comme s'il était au début. Ou bien alors, on en présente tous les obstacles possibles et imaginables au point de nous présenter finalement ça comme étant absolument insurmontable. D'ailleurs, ben, c'est un thème assez récurrent de faire de l'âge dans les séries une maladie qu'il s'agirait de combattre tout simplement, voire éventuellement réussir à en renverser les effets. Les enjeux, ben, ce sera évidemment la question de la mémoire, la question également des capacités et de la légitimité des personnes âgées à avoir encore une reconnaissance dans l'espace public, la question de l'héritage, de l'histoire qu'ils peuvent porter et des liens familiaux également qu'ils portent. La question du regard en arrière sur notre vie, qu'est-ce qu'on en a fait et qu'est-ce qu'on regrette, qu'est-ce qu'on ne regrette pas, avec toute la question éventuellement de la deuxième chance ou au contraire d'un éventuel rejet total de ce qu'on a fait jusque-là pour passer à autre chose. Et puis, éventuellement, dans les meilleures séries qui traitent de l'âge, la question de est-ce qu'il y a moyen d'embrasser totalement son âge et faire la paix avec sa vieillesse et sa vie qui va vers sa fin annoncée. Voilà.
Voilà. Bon, ben comme tu l'as dit, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va déjà se quitter en musique.
Exactement, et on va nous écouter Staying Alive des Bee Gees, entendu dans Supernatural.
Merci pour tout, Aurore, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.